Vous écoutez On lit pour vous.
Le poison de l'isolement social. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 23 juin 2024 dans la presse. Le médecin en chef des États-Unis sonnait l'alarme l'an dernier sur une épidémie de solitude. Cette calamité du troisième millénaire passionne les chercheurs. Leur but? Comprendre les effets de l'isolement sur le corps humain. L'isolement social a été lié à un risque plus élevé de plusieurs problèmes de santé, explique Timothy Matthews, psychologue à l'Université de Greenwich en Angleterre, qui a publié une étude sur le sujet en janvier 2024 dans la revue Brain Behavior and Immunity. Nous montrons que la cause de ces problèmes de santé pourrait être une inflammation chronique. Le psychologue britannique, qui étudie la question depuis 10 ans, établit une différence entre la solitude et l'isolement social. La solitude est un sentiment, un état d'esprit. On peut avoir beaucoup d'amis, mais ne pas sentir d'affinité avec eux ou ne pas se sentir suffisamment reconnu. L'isolement social, s'il est prolongé, est ce qui est dommageable de manière générale sur le plan de la santé. Plusieurs études utilisent toutefois de manière interchangeable les deux termes. L'étude de M. Matthews, qui a analysé les données de 2 cohortes longitudinales totalisant 2500 personnes, montre que l'isolement social durant l'enfance est lié à des taux plus élevés d'inflammation chronique à 18, 38 et 45 ans. Il prévient toutefois qu'on ne peut établir avec ces cohortes un lien de causalité. Il est possible qu'une autre cause, par exemple des gènes, explique à la fois l'inflammation chronique à l'âge adulte et le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis ou une vie familiale riche durant l'enfance. Ces résultats sont faibles par rapport à d'autres sources d'inflammation chronique, comme un deuil ou de la violence en bas âge. Mais ils sont statistiquement significatifs, même si on tient compte de facteurs confondants comme le tabagisme, le revenu ou l'éducation, selon Timothy Matthews. D'autres études ont montré que l'isolement social augmente le risque de démence, d'Alzheimer, de maladie de Parkinson et de troubles cardiaques. La pression sanguine et le rythme cardiaque des esselés sont plus élevés en moyenne. L'an dernier, des chercheurs de l'Université du Maine ont montré que l'isolement social peut aussi mener à des difficultés de mobilité. Nos données montrent que l'isolement social est lié à une démarche plus lente, probablement par l'entremise de l'inflammation chronique, explique Rebecca McCauley, auteure principale de l'étude publiée dans la revue Psychosomatic Medicine. Pour toutes ces raisons, le médecin en chef des États-Unis, Vivek Murthy, a publié en mai 2023 un rapport sur l'épidémie de solitude touchant le pays. Avant même la pandémie, la moitié des Américains souffraient d'isolement social, selon le rapport. L'isolement social augmente le risque de dépression et d'adoption de mauvaises habitudes de vie, comme la sédentarité, ce qui amplifie ses effets sur la santé à un niveau comparable au tabagisme, affirmait le Dr. Murthy. Évolution. Pourquoi l'isolement social augmente-t-il l'inflammation? Nos ancêtres avaient plus de chances de survivre et d'avoir des enfants s'ils étaient bien entourés, dit M. Matthews. Les gens seuls avaient plus de risques de se blesser ou d'être attaqués. Le corps augmentait possiblement automatiquement l'inflammation, qui est une manière de lutter contre les infections pour contrer ce risque accru. L'isolement social est particulièrement problématique pour les personnes âgées parce que l'inflammation chronique est liée à de nombreux problèmes de santé de la vieillesse. Or, c'est particulièrement pour les aînés que l'isolement devient plus fréquent, selon une étude américaine publiée à l'hiver 2023 dans la revue Psychological Science. La solitude suit une courbe en U durant l'âge adulte, explique l'auteur principal de l'étude, Eileen Graham, de l'Université Northwestern en banlieue de Chicago. Elle est moins fréquente au milieu de l'âge adulte, probablement à cause des relations de travail et familiales à ce moment. Madame Graham a analysé 9 études longitudinales regroupant 128 000 personnes de 13 à 103 ans dans 20 pays. L'isolement social était plus important chez les femmes, chez les gens moins éduqués et pauvres, mais la courbe en U était toujours la même. D'autres études ont montré que le début de la courbe en U commence dans l'enfance. L'isolement social diminue à partir de l'adolescence. Le temps passé par les jeunes devant des écrans, qui inquiète beaucoup de commentateurs et de chercheurs, pourrait-il changer la forme de cette courbe? C'est certainement une question à étudier, dit Madame Graham. Il se peut, par exemple, dit-elle, que la diminution de l'isolement social au fil de l'adolescence et du début de l'âge adulte soit liée à l'apprentissage de la sociabilité et des signaux sociaux, un apprentissage qui pourrait être compromis par trop de temps passé avec des amis virtuels plutôt qu'en chair et en os. Les femmes sont plus touchées par l'isolement au troisième âge, à cause des liens familiaux qui sont si bénéfiques au mi-temps de la vie. Les mères ont tendance à avoir moins de rencontres sociales non liées à la famille, selon la psychologue de l'Illinois. Dans les familles plus traditionnelles, la vie sociale des femmes est différente de celle des hommes, dit Madame Graham. Quand les enfants grandissent, les femmes qui ont centré leur vie sociale sur leur famille ont plus de risques de solitude, selon elle. Une version extrême de la solitude est l'emprisonnement solitaire, une mesure administrative punitive dans les prisons. Il s'agit de l'une des punitions les plus sévères en prison, dit M. Matthews. C'est vraisemblablement à cause de l'ampleur de ses effets négatifs sur la santé et le stress. En savoir plus. 3. Nombre minimum d'amis proches qu'ont les Américaines dans la quarantaine se déclarant très satisfaites de leur vie. Source, Adult Span Journal. 6. Nombre minimum d'amis proches qu'ont les Américains ayant une bonne santé métabolique. Source, Proceedings of the National Academy of Science. C'était Le poison de l'isolement social, un texte de Mathieu Perrault, paru le 23 juin 2024 dans La Presse.
Gagner le jackpot. Une chronique de Françoise Angard, parue le 30 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Si, comme moi, vous avez un médecin de famille qui vous soigne bien, pas besoin d'acheter des billets de loterie, vous avez déjà gagné le gros lot. Je n'exagère pas. 6,5 millions de Canadiens n'ont pas de médecin. Sur une population de 40 millions, ça fait 16 % de gens qui n'ont d'autres options que de se présenter aux urgences quand ça va mal. Rien que dans ma province de 530 000 habitants, 160 000 personnes n'ont pas de médecin de famille, soit 27 %. Croyez-moi, depuis quelques mois, j'ai eu amplement l'occasion de mesurer la chance que j'ai. Ça m'a donné envie d'y regarder de plus près. Quel tableau! Dans un tout récent documentaire de CBC, on explique que malgré une augmentation de 5 millions de notre population, le nombre de places de résidence dans nos facultés de médecine a augmenté de 167 en 10 ans. Comment former des médecins au pays s'ils n'ont pas de place pour faire leur formation clinique? Dans notre région, l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard aura beau ouvrir sa nouvelle faculté de médecine en 2025, en partenariat avec la faculté de médecine de Terre-Neuve et Labrador, ce n'est pas ça qui va régler le problème, surtout quand on considère le nombre de médecins de famille de l'île et d'ailleurs en Atlantique qui ont baissé les bras et quitté la profession depuis quelques années. Cela signifie une détérioration des soins de santé à un moment critique pour notre population vieillissante. Tout cela rend encore plus incompréhensible la réticence de nos corporations de santé à recruter plus de spécialistes, entre autres. Ainsi, quelqu'un m'a raconté tout récemment qu'une de ses amies, infirmière de son état, et son mari, médecin spécialisé en immunologie, tentent désespérément de revenir travailler dans leur province natale. Alors que le temps d'attente pour voir un spécialiste ne cesse de s'allonger, la corporation de santé a proposé à ce spécialiste un poste de médecin généraliste. Comment allons-nous nous en sortir si on rétrograde des médecins dans une spécialité aussi recherchée? Je me doute bien que tout cela, peu importe la province, revient à une question d'argent. Pas assez de sous pour créer de nouveaux postes de médecins, pas de fonds pour ouvrir de nouvelles résidences pour les médecins, accroître la taille des facultés de médecine et encore moins pour payer des spécialistes supplémentaires. Pendant ce temps, vu de loin comme simple contribuable, il me semble que le fédéral envoie aux provinces de plus en plus de sous sans jamais réussir à résoudre la crise. Ce qui, à mon sens, pose de nouveau l'efficacité de la chasse gardée des provinces en santé. D'ici 12 à 16 mois maximum, nous devrons tous aller aux urnes pour élire un nouveau gouvernement. Le moment sera alors venu de demander clairement à chaque parti politique ce qu'il entend faire pour soigner adéquatement les 40 millions d'entre nous. Je serai bien curieuse d'entendre les réponses. C'était « Gagner le jackpot », une chronique de Françoise Engard, parue le 30 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
L'Alzheimer dans le ventre, un texte de Charles Prémont, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Le microbiote intestinal serait-il en cause dans le développement de la maladie d'Alzheimer? Le débat scientifique est ouvert. Dans l'environnement immaculé d'un laboratoire irlandais, des rats s'adonnent à diverses tâches, comme s'orienter dans un labyrinthe. Bien que ces animaux paraissent en tout point semblables, on peut remarquer que certains rongeurs se débrouillent moins bien que d'autres dans certains tests. La cause? On leur a transplanté la flore intestinale de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cette expérience, publiée fin 2023 dans Brain par une équipe de scientifiques irlandais et italiens, a de quoi surprendre. Elle montre qu'un microbiote intestinal, malade, suffit à transmettre les symptômes de démence à de jeunes animaux en santé. Ainsi, après avoir reçu un cocktail d'antibiotiques réduisant à une peau de chagrin leur propre microbiote, cette communauté de micro-organismes peuplant l'intestin, ces rats ont eu droit à une greffe fécale provenant de personnes saines ou atteintes de l'Alzheimer. Assez rapidement, les animaux ayant eu une transplantation venant d'individus malades ont développé des difficultés à réaliser certains tests cognitifs, entre autres une tâche de localisation d'objets faisant appel aux souvenirs récents. Une évaluation également utilisée chez les humains pour diagnostiquer la maladie. Une analyse plus poussée a démontré que les rats adultes ayant un microbiote de type Alzheimer produisaient moins de nouveaux neurones dans l'hippocampe, une région du cerveau particulièrement importante pour la mémoire et l'apprentissage, est évidemment atteinte par l'Alzheimer. Dans un second temps, les scientifiques ont montré que le sérum, le sang sans les globules rouges, des personnes malades gênait la formation de nouveaux neurones en culture. Autrement dit, le microbiote intestinal produirait des molécules qui passent dans le sang pour ensuite affecter les cellules du cerveau. Cette étude présente plusieurs limites, entre autres parce que le microbiote normal des rats n'est certainement pas le même que celui des humains. Néanmoins, l'expérience est édifiante. Cette étude, c'était un « proof of concept », une démonstration de faisabilité, explique Sarah Nicolas, chercheuse postdoctorale à la University College Cork en Irlande et une des autrices de l'article. On voulait vraiment voir si l'Alzheimer pouvait être transmis par le microbiote. Et, en fait, peu importe que ce soit d'un humain vers un rat, ce qui s'est passé dans notre étude montre que la maladie n'est pas qu'une maladie du cerveau. Alors que, du point de vue du public, La recherche sur l'Alzheimer semble faire du surplace depuis des années. Y aurait-il, enfin, une lumière au bout du proverbial tunnel? 1001 microbiotes. La composition et l'abondance des espèces microbiennes varient d'une personne à l'autre, mais certains groupes de bactéries jouent des rôles similaires dans l'écosystème intestinal. Cela permet aux scientifiques de définir des profils de microbiote en fonction des rôles joués plutôt que des espèces avec des bactéries qui accentuent l'inflammation et d'autres qui la freinent, par exemple. Ce sont ces profils qui diffèrent souvent entre les personnes malades et celles en santé. Un dialogue incessant. Si on arrive de mieux en mieux à diagnostiquer la maladie, ses causes demeurent obscures. Difficile, donc, de mettre au point des thérapies efficaces. Or, avec le vieillissement de la population, certains croient que l'humanité doit se préparer à un tsunami de cas d'Alzheimer. Trouver un moyen de stopper ou, à tout le moins, de ralentir la progression des symptômes pourrait enlever une pression énorme des épaules des médecins et des familles. La piste novatrice du microbiote suscite donc un certain engouement. L'idée émerge un peu avant les années 2020, avec une découverte qui surprend la planète neurologique. Les gens atteints de la maladie d'Alzheimer possèdent un microbiote intestinal différent de celui des personnes saines. À l'époque, de plus en plus de scientifiques s'intéressent au lien entre le cerveau et le microbiote intestinal, qui peut compter jusqu'à 10 000 milliards de bactéries, virus, parasites, champignons, pour une masse de 2 kg en moyenne, soit plus que le cerveau. De nombreuses études commencent alors à montrer un rapport entre l'apparition et la progression de maladies neurologiques et la composition du microbiote. Cette dernière dépend de notre génétique, mais aussi de notre alimentation, de notre sommeil, de notre niveau d'activité physique, de notre âge et d'autres facteurs environnementaux, comme la prise d'antibiotiques ou d'hormones. Tous ces micro-organismes intestinaux participent au bon fonctionnement de notre organisme. Ils produisent entre autres des neurotransmetteurs, des hormones, des molécules inflammatoires et des métabolites, autant de petits composés qui traversent parfois la paroi intestinale et utilisent différentes voies pour circuler dans tout le corps. Ils interagissent nos organes, nos systèmes immunitaires et nerveux, y compris le cerveau. Ainsi, lorsque le microbiote intestinal est sain, les interactions sont bénéfiques pour l'hôte. Inversement, le déséquilibre du microbiote, qu'on appelle dysbiose, est corrélé avec plusieurs problèmes de santé. Les premières recherches sur le sujet ont révélé que le microbiote des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer présente moins de diversité microbienne. Il contiendrait plus de bactéries produisant des métabolites et des substances inflammatoires. Par une succession d'événements, la dysbiose pourrait entraîner une plus grande perméabilité de la paroi intestinale et de la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet aux substances produites dans l'intestin de voyager plus facilement jusqu'au cerveau. Certaines substances induiraient ainsi une inflammation dans le cerveau, laquelle contribuerait à la neurodégénérescence. La perméabilité de la barrière intestinale pourrait aussi affecter le système immunitaire. On soupçonne que cela causerait, là encore, une inflammation et une réponse anormale des microglies, des cellules servant normalement à protéger notre cerveau. Par ailleurs, en 2020, des scientifiques suisses ont mis en évidence une corrélation entre un microbiote intestinal déréglé et des plaques amyloïdes dans le cerveau, un des marqueurs les plus parlants de la maladie d'Alzheimer. Différents produits des bactéries intestinales, dont des peptides amyloïdes, ressemblant à ceux fabriqués par les cellules humaines, se retrouveraient dans le sang des malades et contribueraient au développement de ces plaques. Celles-ci nuisent à la communication entre les neurones et, en s'accumulant, produisent des dommages irréversibles. Vous écoutez « L'Alzheimer dans le ventre », un texte de Charles Prémont, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. L'œuf ou la poule? Pourra-t-on bientôt prévenir l'Alzheimer en avalant des probiotiques tous les matins? Si avoir un microbiote sain est certainement bénéfique, la voie thérapeutique n'est pas simple à tracer. En effet, si le microbiote affecte des organes comme le cerveau, celui-ci affecte aussi le microbiote. Il est désormais clair qu'il existe un échange permanent entre l'intestin et le cerveau, un dialogue que les scientifiques appellent l'axe microbiote-intestin-cerveau. Conséquence. Si la corrélation entre le microbiote et différentes maladies est bien établie, la causalité, elle, n'est toujours pas prouvée. Autrement dit, est-ce le microbiote qui bouleverse le cerveau ou est-ce cet organe souffrant qui finit par altérer le microbiote? Il faut voir ça comme un ensemble, explique Denis Soulet, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. C'est une sorte de symbiose qui s'est mise en place au fil de l'évolution. Et donc, les deux systèmes, le microbiote intestinal et le cerveau, interagissent. Maintenant, qui déclenche la maladie? C'est difficile à dire. Benoît Arsenault, professeur et chercheur au département de médecine de l'Université Laval, fait aussi partie de ceux qui s'interrogent sur le lien causal. Avec des collègues, il a récemment publié un article dans lequel il évalue le lien de causalité entre l'activité du microbiote et certaines maladies. Il utilise pour cela une technique d'analyse appelée « randomisation mendélienne ». Elle porte uniquement sur des variations génétiques humaines et permet donc de s'affranchir des facteurs extérieurs qui pourraient semer la confusion dans l'interprétation des résultats. On sait que différentes variations naturelles dans notre génome sont associées aux concentrations sanguines de certains métabolites produits par le microbiote intestinal. Il est donc possible de faire un rapprochement indirect entre ces variations génétiques et la composition du microbiote. Parallèlement, plusieurs études ont fait le lien entre des concentrations sanguines de métabolites et différentes maladies. D'où l'idée suivante. Si ces variations génétiques prédisant la présence plus ou moins marquée de métabolites dans notre sang sont également liées à une plus grande fréquence de ces maladies, on pourra supposer une relation de cause à effet entre le microbiote et celle-ci. Grâce à plusieurs banques de données, Benoît Arsenault et son équipe ont donc tenté d'établir ce lien. Sans succès. Bien qu'il soit conscient des limites de son travail, Benoît Arsenault croit tout de même que ses conclusions appellent à la prudence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet causal, mais on ne l'a pas encore démontré, dit-il. Les études réalisées jusqu'à maintenant sont très préliminaires, rappelle le chercheur qui met en garde contre le faux espoir de guérir la maladie simplement grâce à un changement d'alimentation. Le débat n'est donc pas tranché et les scientifiques qui s'intéressent au lien entre microbiote et Alzheimer en sont conscients. À écouter Sarah Nicolas déballer toutes les expériences et les études à réaliser pour décortiquer comment une greffe fécale peut influer sur les capacités cognitives des rats et mieux comprendre comment cela pourrait se traduire chez les humains, on comprend qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres en ce qui a trait à un traitement. Pour moi, notre étude montre avant tout que la maladie d'Alzheimer pourrait commencer dans les intestins plutôt que dans le cerveau. Depuis des années, les études sur l'Alzheimer ne s'intéressent qu'au cerveau. Tout le reste est ignoré, alors qu'il faudrait considérer le cerveau et le corps comme un ensemble. Je pense que cela va s'appliquer à plein de maladies du cerveau. Selon elle, à défaut de trouver une voie de traitement, le microbiote pourrait être une voie d'identification de biomarqueurs utiles au diagnostic. Cela nous permettrait d'intervenir plus tôt dans le développement de la maladie. Comme on croit aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer peut se déclencher des décennies avant son diagnostic, ce pas franchi avec nos amis les rats expose la pertinence de la recherche. Elle devra certainement se poursuivre, mais au rythme de la science, lentement, rigoureusement, et en conservant toujours cette sacro-sainte capacité à douter d'elle-même. Les échanges entre le cerveau et le microbiote intestinal se font par plusieurs voies. La voie nerveuse. Le nerf vague relie le cerveau au système digestif et son activité peut être modulée par les bactéries intestinales. La voie sanguine. De nombreux métabolites produits par le microbiote passent dans le sang. Certains peptides bactériens régulent même directement l'activité des neurones. La voie immunitaire. Plusieurs substances bactériennes agissent sur les cellules immunitaires et sur l'inflammation. La voie hormonale. Le microbiote influe sur la libération d'hormones produites par les cellules intestinales. Il régule aussi la sérotonine ou le cortisol, entre autres. Les infections en cause. On soupçonne de plus en plus que des infections pourraient contribuer à déclencher différentes démences, dont l'Alzheimer. Paul Brassard, épidémiologiste à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, a récemment publié avec des collègues un article qui a fait jaser. En analysant une banque de données comportant des informations médicales de millions d'individus, il a trouvé que les infections à Helicobacter pylori, une bactérie s'attaquant à l'estomac, augmentaient les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Ces résultats confirment ce que d'autres études avaient avancé, même si la méthodologie utilisée jusqu'ici ne permettait pas de le faire avec la maladie d'Alzheimer précisément. Paul Brassard et ses collègues ont montré que les personnes ayant des symptômes d'une infection à Helicobacter pylori ont, en moyenne, 11% de plus de risque de contracter l'Alzheimer. Ce risque est à son maximum 10 ans après le début de l'infection, puis redescend par la suite. Selon le chercheur, cela s'expliquerait par une période de latence entre l'infection et le déclenchement de la maladie, le temps que celle-ci se développe. Comme Helicobacter pylori est très répandu dans le monde, si on en venait à contrôler de près ces infections, on pourrait possiblement faire baisser le nombre de cas de 200 000. Dans un contexte où de plus en plus de gens risquent de développer la maladie, cela demeure une voie à explorer, même si, à l'échelle mondiale, cela aurait somme toute une faible incidence. D'autres agents infectieux ont aussi été mis en cause, notamment l'herpès et les bactéries responsables de la gingivite. C'était « L'Alzheimer dans le ventre », un texte de Charles Prémont, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science.